est indépendant de fortune aujourd'hui. Mais à matin, je parlais avec un possible milliardaire, Luc Poirier. Après ça, j'ai eu William Trudel de Trudel Alliance qui sont sur des projets de 2 à 3 milliards de dollars.
C'est pas mal pris, mettons.
Puis là, j'ai un indépendant de fortune qui est devant moi, qui a 50 ans.
Hey, dis-toi que t'as moi au moins pour...
Non, mais si, nous autres aussi, on a du cheap labor. On a Mathias!
Non, mais l'argent, c'est tellement relatif. D'abord, faut pas aimer l'argent pour en avoir. Faut aimer plutôt les projets. Je me permets une petite note philosophique. C'est là, l'argent est dans les projets, dans les réalisations. Puis tous ceux et celles qui atteignent des hauts niveaux financiers, moi, c'est la liberté financière, mais au-delà de ça, on a des richesses, des gros patrimoines se sont accumulés. Tu parlais de milliardaires ou millionnaires, peu importe, multimillionnaires. Mais ces gens-là vont tous dire, ils ont eu des projets, ils étaient sur leur X, ils ont foncé dans leurs affaires, puis finalement, les contrats sont arrivés, puis ils sont même pas rendus compte que soudainement, le compte de banque... Ils n'ont jamais voulu faire leurs choses pour l'argent.
Ouais, moi,
ils ont
gars,
fait des choses... parce que ça les animait. Il y avait quelque chose qui brûlait en dedans.
Ouais. Les gars, ce qui me fait capoter, puis je t'inclus là-dedans, j'inclus Luc Poirier, j'inclus William Trudel, c'est que vous continuez à rester à Québec. Au Québec. Vous continuez à payer de l'impôt dans le
on a des
plus
enfants.
Gros enfer fiscal qu'on peut avoir. C'est ici, puis vous continuez à faire des affaires ici. Vous avez tout mon respect. Parce que j'ai toujours... Tu sais, quand je jase avec des gens, là, on se prend des Lotomax des fois à la gang, puis on dit hey, « si on gagne ça, qu'est-ce qu'on fait?
»
Premier réflexe, c'est 6 mois par année, on s'en va dans un autre pays, puis c'est là qu'on vit, puis on revient ici 6 mois pour notre couverture d'assurance maladie. Mais tu sais, les hypocrites, là.
Oui, ils veulent pas dépasser leur nombre de jours.
C'est tout le temps ça. Tu sais, les pauvres, là, quand on s'achète des Lotomax, on se dit « Hey, on va sacrer notre camp 6 mois par année. » Puis je me rends compte qu'il y a
les
encore...
Les pauvres payent pas d'impôts, puis ils mentionnent qu'ils en payent trop. Mais c'est à moitié de la population paye pratiquement pas d'impôts.
T'as-tu entendu Luc Poirier combien il a payé d'impôts?
Ouais, 36 millions.
38 millions.
38.
En 2024, il a payé 38 millions d'impôts. Puis les gens le traitent encore de crosseur. Ils disent « Ah non, mais toi, t'es pas vraiment riche. J'aimerais tout ça, moi, payer 38 millions d'impôts puis avoir encore le sourire?
» Ça peut être c'est drôle ce que tu parles parce que ça peut être un objectif, justement. Un jour, j'aimerais ça payer 5 millions d'impôts. Un jour, j'aimerais ça payer 10 millions d'impôts.
Non, tu veux pas payer de l'impôt.
Tu redonnes. Non, mais tu redonnes. C'est tellement valorisant. Mais c'est vrai qu'on associe des fois encore la richesse à de la tricherie, des gens qui ont fraudé, des crosseurs. Puis ça fait longtemps que c'est comme ça au Québec. C'est tellement dommage.
Écoute,
je me souviens des années 70, des gens qui arrivaient avec des Cadillacs. On appelait ça des nouveaux riches.
Ouais.
Puis finalement,
je vais te faire entendre,
tu vas faire entendre de quoi?
Okay. Kim Lizotte, qui est à Tout le monde en parle, elle, c'est la gauche caviar, Kim Lizotte.
Ouais.
C'est pas la plus riche, là, mais c'est la gauche caviar. Puis elle avait un peu de mépris envers Luc Poirier.
Ouais.
Écoute ce qu'elle mentionne.
Ben là, 54 Ferrari dans un garage.
Ah, oh, mais il a payé ses impôts. Tu sais, quand tu payes tes impôts, honnêtement, c'est comme...
Elle
j'ai pas à juger
aussi
ça.
Elle a payé ses impôts.
J'ai pas à juger ça.
Ben là, 54 Ferrari dans son garage. T'as peur, là.
Mais c'est pas 54, c'est 41.
Ben, mettons 41. Mais mettons, c'est 54 Ferrari dans son garage.
Oui, des investissements.
Ce type de véhicule-là, effectivement, c'est un investissement. Pour Kim Lizotte, c'est quelque chose qui a pas de bon sens. Mais Kim Lizotte, elle a quoi? Elle a un Kia, mettons, qui est un bon véhicule, à 40, 50, 60 000. Quand son Kia, il sort du stationnement puis il arrive dans la rue, là, il vient de perdre 20 à 25 de sa valeur initiale.
Exact.
Quand Luc Poirier s'achète un véhicule rare, comme une Ferrari, il nous l'a dit tantôt, le véhicule, ça y coûte à peu près 3,5 millions, mais à partir du moment où il le reçoit dans son garage, il est rendu à 8.
Absolument.
C'est un investissement, mais ces gens-là qui font partie de la gauche caviar, les gens super intelligents, là, se permettent de juger des hommes et des femmes d'affaires qui payent de l'impôt comme pas possible au Québec et qui contribuent justement aux subventions que ces artistes-là peuvent continuer de recevoir pour faire leur émission de télé. T'sais.
Ben oui, on manque de riches, Yann, au Québec. On manque de riches pour payer des impôts. Il y a 44% de la population qui ne paye pas d'impôts. Vous payez, on vous enlève des charges sociales là, pour le RQAP, pour la RRQ. Vous payez des charges sociales pour l'assurance chômage, l'assurance collective. On vous en enlève beaucoup par rapport à ça. Mais quand on parle juste d'impôts fédéral, provincial, « Oh, il m'a enlevé un peu. » Oui, mais tu as ton crédit de TPS, tu as des allocations de famille Québec, allocations de famille Canada. Finalement, on t'a redonné plus que ce que tu as payé quand tu remets un dans l'autre. Tu n'as pas tant d'impôts que ça à payer pour la part des gens. Fait que, puis ça en prend des plus riches, justement.
Mais
même
mépriser,
les plus riches...
De mépriser un gars ben oui. qui fait rentrer 38 millions là, dans l'appareil gouvernemental, je trouve que c'est odieux. Parce que lui, il aurait toutes les raisons du monde de sacrer son camp dans un paradis fiscal, s'éloigner de cet enfer fiscal en Amérique, puis aller dans un paradis fiscal, puis couler des jours heureux avec sa femme et ses enfants.
D'après moi, il pourrait sauver un 25 millions, là, lui. Là,
mais
ça serait
il reste ici, il a le cœur de rester ici, même si les gens... Il y a énormément de détracteurs. Ça. Puis d'ailleurs, son documentaire va être sur Crave, le présenté jeudi. Bien, j'ai vu le premier épisode ce matin.
Ouais, tu l'as vu, hein?
C'est pas mon genre de documentaire, okay. Mais j'ai apprécié ça. Parce que tu vois le gars qui arrive dans une famille un peu dysfonctionnelle, des gens séparés. La mère est sur l'aide sociale, elle fait tout pour faire vivre ses trois gars. Puis lui, dans son univers à lui, fait ses propres petites affaires, collectionne ses cartes d'hockey, commence à comprendre comment fonctionne la société. Ouais. Ah, ben t'as peu, les Canadiens cherchent des joueurs d'hockey anglais, puis les Québécois cherchent des joueurs d'hockey qui parlent français, puis il attribue une valeur à ces cartes d'hockey-là. Fait que lui, il achetait des cartes de joueurs d'hockey en anglais au Québec, puis il allait les reporter en Ontario. Il se faisait un profit majeur là-dessus, puis il faisait le contraire ici.
Absolument.
Il prenait des joueurs francophones sur les cartes en Ontario, puis il ramenait ici, puis il se faisait un profit ici. T'sais, c'est un gars qui a compris très vite la valeur de l'argent puis comment se faire du cash rapidement. Puis il s'est monté comme ça. Puis aujourd'hui, ça va être un des prochains milliardaires. Il ne l'est pas encore. Il est rendu à 800-900 millions, de ce que je comprends, mais ça va être un des prochains milliardaires du Québec. Là.
Absolument. Le pire est fait, je pense, à 800-900 millions, d'après moi, le reste va arriver simplement. Mais il y a toujours une question de... Tu sais, là, il dépense beaucoup présentement, mais il y a toujours une question que probablement qu'il ne dépensait pas beaucoup étant plus jeune. Donc,
ouais.
Il pensait toujours investissement.
C'est ce qu'il mentionne.
Et même sa Porsche.
Ouais.
Même sa Porsche qu'il a achetée fin du secondaire, là. Je sais que ça lui a donné beaucoup de succès avec les femmes, c'est une autre histoire. Mais effectivement, c'est dommage à dire, mais la Porsche lui a amené beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attraction. Et, mais la Porsche, c'est certain qu'il l'a revendue plus cher. Fait que lui, tout ce qu'il fait, il l'investit dans le but de générer des profits.
Exact.
Il aime faire des profits, mais je ne suis pas certain qu'il aime autant dépenser pour rien. Je sais qu'il dépense beaucoup par mois, il l'a dit. Là. Il l'a dit dans l'émission de bureau là, à Télé-Québec. Je pense autour de 1 million par mois, quelque chose comme ça. Mais au stade où il est rendu, pourquoi pas? Bon, si c'est pour sa famille, si c'est pour dans des projets, où ça dépend. C'est quoi dépenser? T'sais, moi aussi, je peux dépenser beaucoup, mais c'est un investissement. C'est pas nécessairement une dépense folle. Ça va me revenir. Fait que l'idée, tu sais, quand il a parlé à un moment donné de doubler l'argent, là, t'sais, de commencer jeune, là, puis moi, je tape sur le clou à chaque fois quasiment que je viens ici pour dire investissez pour votre retraite. T'sais, vous avez combien de 10 ans avant de vous pour doubler autour de 10 ans? Fait que c'est sûr que si tu as 40 ans avant de toi, puis tu as réussi à mettre, je sais pas, moi, tu mets 100 000, puis après ça, c'est 200 000, 400 000, 800 000, ça peut aller très, très rapidement, sans même en ajouter. Tu sais, c'est des rendements composés. Ça va extrêmement vite par la suite. Mais si tu commences trop tard, tu n'as pas assez de dizaines d'années avant toi pour faire doubler. Mais ça peut doubler aussi aux 5 ans, aux 6 ans, dépendamment des rendements que tu vises, puis qu'est-ce que tu veux, tu es prêt à prendre comme risque. Mais tu sais, j'avais des chiffres pour vous autres. Je ne sais pas si on a. Mais quand même.
Vas-y, mon ami.
Disons que c'est pour amusement, OK? S'il y a des planificateurs financiers qui nous entendent, là, qui nous écoutent, c'est pour amusement seulement, parce que vérifiez votre propre réalité, certainement avec un planif. Mais ici, j'ai un petit tableau. Par exemple, si vous voulez travailler 19 ans, puis après 19 ans, tu te dis, moi, je vais être libre financièrement. Vous devriez placer, bien investi, 40 % de vos revenus.
40 %
Vous aimeriez travailler seulement 15 ans, puis après ça, être libre. Je commence à 20, puis à 35, bye-bye, boss. 50 % de vos revenus. Vous aimeriez travailler seulement 11 ans, on va dire une dizaine d'années. Vous devriez mettre 60 % de vos revenus de côté, investis, bien sûr. La plupart des gens vont arriver à mettre entre 10 et 15 %. 15 %, ce serait 35 ans de travail. Mais si vous mettez 10 % de côté, vous aurez probablement à travailler autour de 40 ans. Et si quelqu'un ne met pas aucun sou de côté, il n'investit rien, ben, il n'y aura pas de retraite. Puis c'est correct. Puis si vous pensez travailler jusqu'à la fin de vos jours, puis vous avez la santé... c'est super, c'est un autre scénario possible. Mais la grande question pour la chronique d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut prendre notre retraite avec 500 000 $ Ça, c'est un auditeur de mon podcast Financièrement parlant. Est-ce qu'on peut prendre une retraite avec 500 000 $ à 65 ans. Puis
500 000 que tu places pas, là.
On a 500 000, puis on va devoir le décaisser, le décliner dans la période de temps qui nous reste, qui est évaluée à 21 ans pour les filles. Non, c'est 24 ans pour les filles, 21 ans pour les hommes. C'est ça la moyenne d'années de retraite qu'on va devoir étaler.
Mais 500 000, si tu le places pas, puis tu le mets sur 20 ans, ça te fait 25 000 par année. Plus que le gouvernement va te donner au provincial puis au fédéral.
Bien, tu vois, t'as vu juste, Yann, t'es bon.
Mais j'apprends.
Sérieusement, ouais, c'est ça. Hein,
je suis ici, bois-bois.
Non, t'as des bons réflexes. On doit dire que je t'ai même pas envoyé de notes aujourd'hui, puis j'en suis désolé. Mais j'ai tout ça ici, puis écoute, ton chiffre est exactement... On parle d'un total avec le RRQ. Si on a le RRQ total, on a 65 ans, on a 17 200. Ça, il faut vraiment avoir cotisé total, ce qui représente à peu près 5 à 7 % de la population qui ont pleinement cotisé. Donc, OK, le 17 200, c'est pour 5 à 7 % de la population. La majorité des gens vont avoir RRQ à 65 ans, autour de 12 000. Mais on va y aller avec le total. La pension de sécurité de vieillesse, on parle de 8 732 par année, bien sûr. C'est un total de prestations ici de 25 932. Puis après ça, bien, on parle de, par exemple, on a un placement qui génère, on sort à peu près 4 % il génère à peu près 4 % de rendement, puis on voudrait se sortir ce pourcentage-là autour de 20 000 par année qu'on ajoute aux prestations de l'État, qui fait un total de, on va l'arrondir à 46 000. Donc aujourd'hui, ce serait 46 000. Donc la grande question, c'est est-ce qu'on peut vivre avec 46 000 à 65 ans, parce qu'à 65 ans, on n'est pas dans la chaise berçante.
Je te
là.
Dirais oui, mais ça dépend où tu es rendu. Ta maison, est-tu payée?
Bien, c'est
ta
ça.
Ta maison est payée, tu n'as pas d'hypothèque, tu restes les taxes municipales, tu restes les taxes scolaires, puis tu as à entretenir la maison. Tu ne vivras pas richement, mais tu es capable quand même de continuer à fonctionner.
Parce que c'est autour de c'est 38 ou 36 % des nouveaux retraités qui ont encore un paiement hypothécaire. C'est une étude qui est sortie il y a 2 ans.
Ça
on s'approche de presque la moitié des retraités maintenant qui ont encore un prêt hypothécaire.
Ça peut être sain d'avoir encore ton paiement hypothécaire si tu as de l'argent de placer. T'sais, ton rendement va toujours être meilleur que le coût de ton hypothèque.
La plupart du temps, oui, tu as raison.
Si tu as de l'argent, tu la places puis tu continues d'avoir une hypothèque. T'sais, moi, j'ai donné cet exemple-là à Luc Poirier ce matin. T'sais, Céline ouais. Dion, sur l'île Bizarre, avait une hypothèque. Puis moi, c'est ce qui m'a fait réaliser qu'elle, elle prenait son argent, elle était multimillionnaire, prenait son argent, elle le plaçait, puis le 2-3 % que ça coûtait dans le temps d'hypothèque pour sa maison, ça en sacrait. Elle faisait du quoi? 7, 8, 9 %
Mais en même temps, c'est 38 %, c'est ça? C'est pas la majorité, là, que c'est leur cas, par exemple, qui ont de l'argent. La majorité, ça doit être juste qu'ils n'ont pas fini de payer. Là. Puis ça, j'imagine, ça exclut tout ce qui est location puis logement loué, là.
Ben là, ils ont tous des frais de logement. Mais là, quand on parle d'un prêt hypothécaire, c'est qu'ils ont encore un prêt hypothécaire. Donc, c'est pas vrai que tu arrives à la retraite à 65 ans puis tu as juste à payer ton train de vie parce que soudainement, tout est payé. La statistique par rapport à un prêt auto, je serais curieux de la voir. Mais moi, juste autour de moi, c'est sûr que c'est pas scientifique, c'est pas un sondage que j'ai fait, mais autour de moi, j'ai beaucoup de retraités de 65 ans qui ont des paiements d'auto. Donc, la majorité de ces gens-là, quand même, j'oserais croire que ça serait limité à 500 000. Mais est-ce que ça prend 1 million pour être confortable? Peut-être que oui, peut-être que non. Des fois, le sweet spot, ce qu'on a vu souvent dans des planifications financières, c'est que c'était le petit chiffre magique d'autour de 800 000. À 65 ans, avec 800 000 bien investis, qu'on peut se décaisser un montant sans que ça descende trop vite parce qu'on se prend nos rendements finalement, puis qu'on a une stabilité, puis on peut filer ça pour une vingtaine d'années, 20-25 ans au moins. Normalement, ça fonctionne. Tu sais, les gens qui ont des fonds de pension, il faut penser à une chose, c'est que ceux qui ont des fonds de pension à prestations déterminées, par exemple, comme au gouvernement, les bons fonds de pension, les vrais fonds de pension, là, prestations déterminées, ça équivaut peut-être à... Tu sais, c'est l'équivalent d'un 10 %. C'est comme si tu as un 10 % que tu n'as pas à mettre de côté. Mais tu as encore un autre 10 % à mettre de côté pour l'ajouter à ta prestation de c'est-à-dire prestation déterminée de ton fonds de pension. Donc, le fameux 20 % de côté, si tu as un fonds de pension, bien, ça serait 10 % parce que ton fonds de pension va combler l'autre partie.
Ouais.
Fait qu'assurément, tu as toujours ton bout à faire pour ton discrétionnaire. Mais 65 ans aujourd'hui, certains diront que c'est le nouveau 55 parce qu'à 65, je ne sais pas si... moi, à l'âge que je suis, j'ai des chums là, qui sont autour de ça. J'en ai qui sont plus vieux que ça. pour dire une affaire, ils ont la même vie que moi puis toi, là. Ça change pas, là. Ils font des voyages, puis font des affaires, puis
j'ai réglé mon stress.
Ils se percent pas, là. Ils se
j'ai réglé mon stress pour ma retraite. J'arrêterai jamais de travailler. Fait que ça, c'est réglé. Des auditeurs qui nous écrivent, Pat, entre autres, il dit « Salut, moi, je suis un peu dans la marge. J'ai 47 ans, j'ai pas une scène de côté, mais je commence aujourd'hui à mettre environ entre 300 et 400 $ par mois pour compenser. » Les rendements, à combien je peux m'attendre par année? Ça dépend de ton degré de tolérance au risque.
Oui, on va dire entre 4 et 7 %. L'Institut de la planification financière, il va avec un 6,38 quelque chose là, si on est moindrement en croissance. Là. Oui, le S&P a fait 9,4 avec les dividendes depuis les 50 dernières années, mais il ne faut pas s'accoter trop là-dessus. Il faut y aller vraiment avec quelque chose qui serait plutôt... Parce que là, on a 47, 48 qui dit, donc il n'y a même pas 20 ans en avant. Fait que 20 ans, on a déjà vu des décennies perdues aussi en rendement sur les marchés, donc il y a quand même le risque de temps. Par contre, tu vas me dire, ben, il ne va pas tout décaisser à 65 non plus. Non, c'est ça, il va l'étendre. Mais il va se donner un break pour ses premières années de retraite. Mm. Mais forcément, ceux qui commencent plus tard vont juste tomber pauvres plus tard à la retraite. Ils vont quand même avoir une couple d'années. C'est ça que je dis des fois, c'est que vous allez être confortable, mais là, vous n'avez jusqu'à 74 ans. Qu'est-ce qui arrive après? Ben vous tombez pauvre. Ben c'est plate à dire, mais c'est ça pareil. Mais quelqu'un qui est pauvre en ce moment, qui travaille, sa petit revenu, qui fait 30 quelques mille par année puis est content... Lui ou elle, à 65 ans, il n'aura pas de différence. Là.
Non, c'est ça.
Ça ne changera pas. Il n'y a pas à mettre 20% de côté. Là. Et c'est dommage à dire, mais quelqu'un qui est moindrement pauvre, même lorsqu'il travaille, il va arriver à la retraite, ça va être pas mal pareil.
J'ai un auditeur qui m'écrit, il me dit, c'est le fun parce qu'à chaque fois que tu viens, il y a tout le temps des gens qui pensent que moi, personnellement, Marceau, je peux faire du trafic d'organes. Ils me disent, Yann, t'as-tu quelqu'un qui veut acheter un rein? Mais vous comprenez que je peux pas faire ça à radio.
Toi, t'en restes juste un rein, t'as vendu l'autre.
Oui, oui, c'est ça.
Ben moi, si j'ai un rein à vendre, je pense que c'est toi que je viens voir, Yann.
C'est, oh, c'est super gentil de votre confiance. Je sais pas pourquoi tout le monde m'offre des reins, mais oui, tu sais, quand on entend parler des chroniques financières, ça peut être stressant parce qu'on a tendance à se comparer. Meilleur conseil qu'on peut donner, c'est d'aller rencontrer un planificateur financier, de vous faire un budget, d'être capable de gérer vos affaires, puis d'avoir un bon comptable aussi. Mais commencez aujourd'hui si ce n'est pas déjà commencé.
Parce que s'il reste 20 ans...
Vous n'avez pas à subir ce stress-là. Un planificateur financier est capable de prendre le stress puis de vous aider à vous enligner.
C'est vraiment... Tu as bien fait de le dire parce que c'est vraiment la personne à aller voir. Pour le fameux 360, dans les 7 champs là, de la planification financière, là, le rendement puis les placements, là, c'est un champ. Mais il y en a bien d'autres à voir. Mais tu sais, s'il vous reste, par exemple, 20 ans avant votre retraite, bien, on parle de 40 %. Mais là, c'est des règles du poids. C'est empirique. Là. Tu sais, je vous donne ça, vous allez voir le planificateur, le gars réseau, il a dit ça. Oui, le gars, il veut être coloré, puis on fait une chronique, puis on a 20 minutes. Mais vous allez voir votre planificateur, vous asseyez avec pendant une heure de temps, puis c'est peut-être pas autant, mais c'est autour de ça, pareil, 40 % pour combler les 20 années qui vous restent avant une retraite. Par exemple, vous avez 45, là, je fais un chiffre comme ça. Fait 40 % de votre revenu. Donc, si vous faites 100 000, c'est quand même 40 000 à mettre de côté. C'est quelque chose. Il n'y a pas grand monde qui pourrait le faire, justement. Mais c'est pour ça que les gens arrivent tous à la retraite, bien surpris, puis ils finissent par retourner travailler. Puis, sais-tu, je vais terminer là-dessus, mais sais-tu ce qui est triste, Yann, puis Max?
Vas-y.
Mathias, pas Max, Mathias. Ce qui est triste, c'est que les femmes ont 30 à 40 % de moins que les hommes arrivés à 65 ans parce qu'elles ont eu des années où ça ne s'est pas accumulé. Ils ont été pour les enfants, ils ont payé des fois des frais courants, des années de maternité, ils n'ont pas cotisé autant à leur fonds de pension, etc. Donc, ils arrivent à 65 ans. La femme a entre 30 et 40 % dans les statistiques de moins à 65 ans qu'un homme. Puis on dit qu'un homme a déjà pas assez. Fait que t'imagines quand ils se séparent, mais là, c'est une contrainte. Puis en plus, les femmes vont vivre plus vieilles. C'est ça qu'il faut dire. Plus vieille, il y a près de 6 ou 7 ans en moyenne de plus que les femmes vont vivre. Ils vont se rendre jusqu'à 84, 85. Là. Fait que c'est un 4-5 ans, mettons. 5-6 ans, j'exagère, mais 4-5 ans de plus en moyenne qu'ils vont devoir couvrir. Donc, les femmes à 65 ans sont relativement plus pauvres. Et si vous êtes un couple et que vous n'êtes pas égaux dans les revenus, ben arrangez-vous pour être égaux à 65 ans, parce que là, c'est plate qu'il y en a un des deux qui va payer sortie, puis les voyages, puis la croisière. Ça se peut qu'à un moment donné, ça ne marche plus,
cette histoire-là. Il faut que ce soit effectivement
tout le côté
équitable,
c'est le bon mot pour terminer. Mais bonne chance, pas de retraite.
Pat Raymond du podcast Financièrement parlant, on te suit sur les réseaux sociaux. On a juste à taper ton nom, Pat Raymond, Financièrement parlant.
Financièrement parlant, sur le groupe Questions financières. Souvent, je prends mes idées-là. Je vous les amène en chronique, puis ça permet d'ouvrir la discussion. Puis j'imagine que le texto n'arrête pas. Je sais que je provoque un peu, mais c'est quand même assez réaliste, mes amis.
Pat, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Bye-bye.
Merci. Marceau le midi.
Gravel dans le retour. Alors là, il lui a posé la question. Est-ce que vous êtes encore pro-tramway ou vous êtes contre si vous vous présentez avec Leadership Québec? Écoutez la réponse d'Émilie Robitaille.
Monsieur, c'est pas un bon projet pour le moment pour Québec.
Ça y est, sorti.
Wow! Cette femme-là décide de se présenter pour Sam Hamad.
C'est une première
Elle
en
se
20
fait
ans.
Poser une question.
Très légitime.
Et lui prend le plancher. Sérieux? Moi, à sa place, j'irai parler puis je dirais « Fuck off, trouve-toi quelqu'un d'autre. »
C'est parti,
fini.
Je quitte. Elle est devenue nucléaire, là, juste là.
Monsieur...
Hey, si tu veux te présenter tout seul, fais-toi pas un parti. Présente-toi comme indépendant, comme maire.
Gravel dans le retour. Tous les jours en semaine, 14h.
Ouais, puis tous nos bons coups, les niaiseries d'Audrey, puis notre vie privée qui l'est plus pantoute, tu retrouves ça sur le blvd.fr.
Hey! Ça en fait des choses à écouter, ça.
Marceau le midi, présenté par la rassembleuse Terrasse du Maurice, qui donne envie de se poser et de rester un peu plus longtemps que prévu. Visitez lemaurice.ca.
La saison des terrasses commence en force avec le Festibière de Lévis du 26 au 29 juin au Quai Paquette. Avec Jay Scott, Clay and Friends et Classe Moyenne. Cette semaine, le Festibière de Lévis s'invite dans Gravel dans le retour pour vous offrir des accès pour l'événement. Restez à l'écoute toute la semaine, l'équipe vous posera une question spéciale Festibière. Répondez-y correctement et vous pourriez remporter votre accès hebdomadaire avec dégustation. Boulevard 102.1 et le Festibière, fiers partenaires de vos sorties estivales.
Ton père n'a pas besoin d'un nouveau gadget, il a besoin d'une bonne bière. Passe chez Chaloux, il y en a pour tous les papas. Du funky au plus classique. Chaloux, Beauport et Saint-Émile.
Envie d'un été électrisant? Passez à l'ID4 2024. Chez Laval Volkswagen, obtenez-le avec un financement à 0% jusqu'à 72 mois, sans vous parler du 4 000 $ de rabais gouvernemental et de 11 000 $ de rabais additionnel. Passez à l'électrique chez Laval Volkswagen. Laval Volkswagen, sans flafla depuis 1968.
Commence ton été en grande force. Planète Nutrition est en promotion. En ce moment, 25% de rabais sur tous les produits PN. Ton mieux-être commence ici, chez Planète Nutrition, à Le Bourgneuf, Sainte-Foy, Saint-Georges et au planètenutrition.ca.
Le 14 juin prochain, le parcours de la boucle Vidéotron du Grand Défi Pierre Lavoie traversera plusieurs secteurs à Lévis. Des entraves importantes à la circulation sont à prévoir selon les secteurs. Planifiez vos déplacements en visitant ville.lévis.qc.ca/circulation.
Cet été, prenez le contrôle avec Enviroconfort grâce à nos thermopompes et climatiseurs de marque